la vingtaine de variants du SARS-CoV-2 identifiés depuis le début de la pandémie, le variant Delta est à l'heure de la rentrée celui qui préoccupe le plus les autorités. Cette souche identifiée en Inde fin 2020 est aujourd'hui dominante en France et dans le monde. Plus contagieux, provoquant selon les premières études de plus grands risques d'hospitalisation chez les personnes non vaccinées, ce variant aurait également la capacité de mieux résister au vaccin sans toutefois, et c'est tant mieux, les déjouer complètement. Comment dans ces conditions adapter la stratégie de lutte contre le Covid-19 ? Faut-il envisager la généralisation d'une troisième dose de vaccin ? Et comment mieux anticiper l'émergence de nouveaux variants ? C'est le casse-tête sanitaire que nous allons tenter de résoudre aujourd'hui. Covid-19, l'ombre du Delta plane, c'est le programme mutant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Sarrazin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche INSERM au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Nous avons également le plaisir de recevoir Olivier Schwartz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Mais avant de partir à l'assaut du variant Delta, il est l'heure de retrouver une invariante dans l'actualité scientifique. Il s'agit de Natacha Triot pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha.
Bonjour Antoine.
Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Science annonçant la détection d'un nouveau type de supernova.
Une supernova, c'est une explosion stellaire qui a lieu de différentes façons. Les explosions les mieux comprises sont celles par effondrement du cœur d'une étoile. Lorsque les noyaux atomiques d'une étoile ne peuvent plus fusionner entre eux pour produire de l'énergie, quand l'étoile arrive au bout de son carburant, la fusion s'arrête et l'étoile s'effondre sur elle-même. C'est là qu'on observe un feu d'artifice cosmologique avec l'expansion de rayonnement radio. Mais il existe d'autres mécanismes d'explosion. Grâce aux données du Very Large Array Sky Survey, le grand télescope dans le domaine radio aux États-Unis, une équipe internationale a détecté un phénomène jamais observé jusqu'à présent, mais théorisé depuis longtemps, l'explosion de supernova par fusion de deux étoiles. Pierre Carvella est astronome à l'Observatoire de Paris, au laboratoire Lesia à Meudon.
C'est une étude tout à fait intéressante qui présente la découverte d'une source dans le domaine des ondes radio, d'une source transitoire, temporaire, très intéressante, très étonnante et qui est interprétée comme étant le résultat d'une explosion d'une étoile, mais d'une étoile sous l'effet d'un mécanisme un peu particulier lié à la fusion de deux étoiles. Alors là, dans l'étude qui nous intéresse, donc publiée dans Science, il y a un apport de matière. C'est-à-dire la source secondaire va apporter sa matière à l'étoile principale. Et donc cette augmentation de matière, de quantité de masse, combinée à l'effet perturbateur justement de l'accrétion, c'est-à-dire de l'absorption de l'étoile secondaire dans l'étoile primaire, va conduire à l'explosion du cœur de l'étoile principale. Et donc produire une supernova pour une étoile qui n'était pas en fin de vie, forcément, comme ne peut l'être une étoile qui s'effondre, dont le cœur s'effondre sur lui-même, une étoile seule. Et voilà, c'est un mécanisme assez distinct, assez différent des autres qu'on connaît jusqu'à présent. Le type d'objet secondaire donc qui a fusionné avec l'étoile principale, ça reste quand même assez hypothétique. On sait qu'il y a une certaine masse. Il est plus probable que ce soit un objet compact de type étoile à neutrons plutôt qu'un trou noir, mais simplement pour l'instant, je crois qu'on n'a pas forcément assez d'éléments pour dire de manière catégorique de quel type d'objet il s'agit. Par contre, on sait que c'est un objet d'une masse relativement importante, qui a apporté suffisamment donc de matière à l'étoile principale pour la déstabiliser suffisamment et donc qu'elle explose comme supernova.
Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et tous les liens utiles sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez également réécouter le Journal des Sciences et la totalité de l'émission sur franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au brève. Selon une étude parue dans The Lancet Infectious Diseases, la vaccination protège également du Covid long.
Mais le Covid long, ou quand les symptômes d'une infection perdurent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est déjà prouvé que la vaccination freine efficacement les cas graves de Covid-19. Cette grande étude britannique prouve que les vaccins ont non seulement un impact sur la gravité des symptômes, mais aussi sur leur durée. Les chercheurs se sont appuyés sur les données de 1,2 million de personnes grâce à Covid Symptom Study, une application britannique qui renseigne sur l'état de santé quotidien des patients. Alors, cette analyse montre qu'une double vaccination réduit considérablement le risque d'attraper le virus et, si jamais c'est le cas, de développer un Covid long. Les personnes entièrement vaccinées et infectées ont 50% de risque en moins de connaître des symptômes persistants.
En bref, toujours, une vingtaine de revues scientifiques publient un éditorial commun et se réunit pour lancer une alerte sanitaire.
La plus grande menace contre la santé publique, ce n'est pas le Covid-19, mais le réchauffement climatique. Voici l'alerte que lancent des revues médicales comme The Lancet ou le British Medical Journal. Elles appellent les pouvoirs publics à une action d'urgence pour limiter l'augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5 degrés et pour restaurer la biodiversité. Notre santé à tous en dépend et le dérèglement climatique a déjà des conséquences graves sur notre santé. Je cite, de nombreux gouvernements ont fait face à la menace de la pandémie de Covid-19 avec un financement sans précédent. La crise environnementale exige une réponse d'urgence similaire. Fin de citation.
Et enfin, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir subi une cyberattaque.
Et son site France Visa, la plateforme pour obtenir un visa, a été visé par une attaque informatique. Alors, lors de la cyberattaque qui a eu lieu en août, les données personnelles de plus de 8700 personnes ont été volées. Nom, prénom, numéro de passeport, date de naissance, adresse mail et nationalité. Le ministère dit avoir renforcé la sécurité de son portail. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a été saisie et une enquête est en cours.
Merci beaucoup. Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences.
Ce soir ici, on a le sentiment que les autorités indiennes ne maîtrisent plus rien, que l'épidémie est hors de contrôle. Ces dernières semaines, pourtant, l'Inde semblait s'en sortir. Certains parlaient d'immunité collective, mais voilà, ces dernières 24 heures, on a enregistré près de 300 000 nouvelles contaminations. Comment alors a-t-on pu en arriver là? Serait-ce la faute de ce nouveau variant indien doublement mutant dont on sait peu de choses, si ce n'est qu'il est plus contagieux et qu'il résisterait mieux aux anticorps. On ne sait pas en revanche s'il est plus mortel. Ce qui est sûr en tout cas ce soir, c'est que le système de santé indien est au bord de l'explosion. Les hôpitaux débordent. À New Delhi, la capitale, on ne compte plus le nombre de patients qui cherchent désespérément un lit pour être soignés. La capitale manque aussi d'oxygène. Sur le marché noir, certaines bouteilles se revendent jusqu'à 1000 euros l'unité.
Voilà, ça c'était le 21 avril 2021. Alors, on va peut-être commencer en présentant ce variant Delta, anciennement baptisé variant indien. Sandrine Sarrazin, est-ce que, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de la biologie de ce mutant-là, quelles sont ses principales caractéristiques qui font qu'il est arrivé sur le devant de la scène et qu'il y reste ?
Sa principale caractéristique, c'est qu'il est bien plus transmissible, il se transmet bien mieux. Donc assez rapidement, il a pris le dessus sur les autres variants. Il semblerait qu'on soit contagieux un peu plus tôt, avec une charge virale un peu plus importante dès le début. Donc ce variant permet, de grâce aux mathématiques et à l'exponentielle, de se propager très très vite.
Olivier Schwartz.
Oui, ce qui est intéressant de noter, c'est que les variants ou les virus qui circulent se livrent à un combat féroce. Ils sont comme des lions dans une prairie et plus le virus va se multiplier, se transmettre, plus il va prendre le dessus. Et on a pu voir effectivement que un virus qui est apparu, enfin qui a été identifié il y a 5 mois maintenant, puisque au début il y avait très peu de séquences. Il faut se rappeler qu'il y a une base de données mondiale qui s'appelle GIZ où il y a 3 millions de séquences et que progressivement, donc on a pu voir en temps réel l'apparition de la multiplication de ce variant.
Ce qui en aparté est une première dans l'histoire de la médecine quand même, cette capacité à pouvoir suivre l'évolution génétique aussi précisément que ça d'un virus.
Alors le dispositif existait, mais là il a été optimisé et toutes les équipes jouent le jeu pour alimenter ces bases de données en temps quasi réel. Et ça, c'est très important. Et donc, on a pu voir effectivement que ce virus, qui était inexistant il y a 5 mois, est maintenant présent partout dans le monde. C'est 93% des séquences actuellement, mm-hmm. aujourd'hui, et en France, on est à 98%, donc, alors qu'il y a 4 mois, on n'entendait pas du tout parler. Donc, il a c'est un succès évolutif, il a un avantage sélectif majeur par rapport au virus précédent, au variant précédent.
Alors, c'est jamais inutile de refaire un petit peu de pédagogie autour du SARS-CoV-2 et du Covid-19, même si on en parle beaucoup depuis un an et demi, non seulement sur cette antenne, mais un peu partout, Sandrine Sarrazin. Pour se reproduire, un virus a besoin d'une cellule. À partir de quel moment, dans cette phase de reproduction, la mutation intervient?
Oui, tout à fait. Le virus en soi... Les virus en soi ne sont pas des êtres vivants qui peuvent se propager par eux-mêmes. Ils ont besoin d'une cellule. Ils viennent parasiter ou détourner le système cellulaire. Donc, ce qu'ils font en autonomie, c'est rentrer dans nos cellules. Et ensuite, ils viennent utiliser nos propres systèmes donc de production, là, dans ce cas-là, d'ARN, mm-hmm. puisque le SARS-CoV-2 est un virus à ARN. Donc, il va y avoir une première étape de multiplication de la molécule d'ARN à l'intérieur de nos propres cellules en utilisant nos propres outils, mmh. notre propre usine à fabriquer des ARN et ensuite notre propre usine à fabriquer des protéines. Et donc le virus va se photocopier à l'intérieur de nos cellules, donc photocopier la molécule d'ARN, et c'est à cette étape-là qu'a lieu les erreurs de copie. Donc voilà, des erreurs de photocopie, les fameuses mutations. Voilà. Donc une fois que les mutations sont apparues, fait que l'ARN est photocopié, ces ARN vont être encapsidés dans les protéines qui ont été aussi produites par notre propre machinerie de production des protéines, et puis les particules virales nouvellement formées vont pouvoir ressortir de la cellule et se propager plus avant.
Voilà. Olivier Donc Schwartz.
C'est la photocopie qui crée les erreurs.
Olivier Schwartz, il est très important aussi de rappeler que les mutations sont extrêmement nombreuses et qu'elles n'ont pas toutes forcément un effet notable ou même délétère pour notre organisme ou pour le virus.
Oui, tout à fait. Si le taux de mutation est relativement faible, mais comme le virus se multiplie beaucoup et en 8 heures, il y a des virus qui sont nouvellement produits, donc c'est cette multiplicité à haut niveau qui permet de, si jamais il y a une mutation qui a un avantage sélectif, eh bien elle va prendre le dessus. Et en fait, avec le variant Delta, ce n'est pas une mutation, mais c'est un ensemble de mutations. C'est une dizaine de mutations, en particulier au niveau de la spicule, qui lui ont... faciliter la vie, j'ai envie de dire. Et donc, on connaît maintenant le rôle quasi une à une de ces différentes mutations. On peut les classer d'ailleurs en 3 catégories. Il y en a une dizaine dans la spike. Il y en a qui permettent au virus de s'arrimer plus facilement à son récepteur, donc à se lier à la cellule. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des mutations. Une mutation en particulier qui s'appelle P681R qui permet au virus de fusionner plus rapidement. Donc après s'être arrimé rapidement, il fusionne et rentre plus rapidement. Et enfin, la troisième catégorie sont des mutations de résistance partielle aux anticorps qu'un organisme peut générer. Et donc c'est cette combinaison unique qui a permis à ce variant de se propager aussi efficacement.
Qu'est-ce qui distingue ce variant Delta des précédents dont on a beaucoup parlé, les variants sud-africains, le variant britannique, Sandrine Sarrazin?
Alors, en termes de mutation, Olivier sera mieux placé que moi pour le dire exactement. Mais par rapport au variant précédent, il est beaucoup plus contagieux. Donc, il va vraiment se répandre très facilement. Et la contagion, c'est une exponentielle. Donc, ça monte très, très vite, en fait.
Si on refait un peu le point, justement, sur ce qui rend ce variant plus contagieux, Olivier Schwartz, sur quel point biologique ça apporte cette plus forte contagiosité?
Eh bien, donc c'est exactement ce que vous disiez, c'est ouais. que c'est la combinaison en fait d'une optimisation des différentes étapes du cycle de multiplication dont parlait Sandrine, qui ont permis donc à ce virus d'être dans des conditions favorables et de réplication et de prendre le dessus. On voit ça d'ailleurs en culture cellulaire, ces différentes équipes ont montré ça. Si on mélange deux virus, par exemple le variant alpha qui était le variant anglais qui prédominait auparavant et le variant delta, on les met ensemble dans une culture cellulaire, eh bien, et donc on fait ce qu'on appelle la compétition en culture cellulaire, eh bien le variant delta va se multiplier plus rapidement et donc... ce qu'on voit en éprouvette, en fait, a également lieu sur le terrain et le virus peut se propager ainsi plus rapidement. Et donc, il a un avantage, c'est que par rapport à, par exemple, aux variants bêta ou gamma, on parlera peut-être tout à l'heure du variant mu, qui eux aussi ont beaucoup de mutations qui étaient plutôt axées sur l'échappement aux anticorps, l'échappement au système immunitaire. Eh bien, c'était le revers de la médaille, c'est que l'échappement au système immunitaire affaiblissait le virus. Il avait perdu en fitness, en vitalité, alors que dans le cas du Delta, il y a juste l'équilibre adapté finalement pour maintenir une excellente fitness et même une fitness augmentée tout en résistant partiellement aux anticorps.
France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp.
Nous parlons tout au long de cette heure du variant Delta du SARS-CoV-2. Olivier Schwartz, on parlait à l'instant de contagiosité, de la plus forte contagiosité de ce variant Delta. Il y a un autre phénomène, Sandrine Sarrazin, qui est le fait que les personnes qui sont infectées par ce variant Delta ont une plus forte charge virale. Ça, il faut bien distinguer contagiosité et charge virale. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire cette distinction-là?
Oui. La charge virale, c'est... En gros, c'est le nombre de particules virales qu'on peut héberger dans le corps. Et alors, à différents endroits, hein, puisque la contagiosité, elle va dépendre des particules virales qu'on va pouvoir expulser quand on parle, quand on tousse. Voilà. Donc, dans la bouche, dans les voies supérieures, aériennes supérieures. Plus la charge virale est importante, plus la contagiosité augmente. Chez les personnes non vaccinées, en tout cas. On sait maintenant que les personnes vaccinées, on en reparlera certainement tout à l'heure, les personnes vaccinées qui peuvent quand même être infectées avec ce variant Delta, ont une charge virale qui peut être importante aussi, mais où les anticorps vont déjà protéger de la future contagiosité, en fait. Donc, ils vont moins être contagieux parce que les virus sont déjà un peu couverts affaiblis. De ces anticorps, voilà, affaiblis.
Olivier Schwartz, est-ce qu'avec ce variant Delta, on constate une hausse du nombre de cas graves? Ou bien est-ce que par rapport aux autres variants et par rapport à la souche d'origine, c'est plutôt à l'équilibre?
Alors, il y a différentes études qui ont été effectuées. Vous parliez tout à l'heure c'était Natacha qui parlait des études sur des millions de personnes qui sont faites en Angleterre, par exemple. Et là, il y a une étude qui a montré la semaine dernière, qui a été publiée dans le Lancet Infectious Disease, qui a analysé, je crois, les 50 000 derniers cas en Angleterre. Et donc, ça, c'était sur plusieurs mois, et donc il y avait un tiers de variant Delta et deux tiers de variant Alpha. Et donc cette étude semblait montrer et montre qu'il y a une augmentation d'un facteur 2 du risque d'hospitalisation ou d'admission au service d'urgence lorsqu'on est infecté avec le variant Delta. Donc il semble être peut-être plus agressif. Cependant, il ne faut pas oublier deux choses, c'est que le nombre de cas de personnes décédées reste très bas. Et puis, encore plus récemment, il y a deux autres études qui semblent, une au Danemark ou au Norvège d'ailleurs, qui ne semblent pas voir cette augmentation de dangerosité associée au variant Delta. Et il y a une étude américaine aussi du CDC qui montre que chez les enfants, le variant Delta n'a pas l'air plus dangereux ou associé à des formes plus graves. Donc la question reste ouverte, ça dépend où est-ce qu'on fait les études et quels critères on prend pour évaluer la dangerosité, la sévérité. Est-ce que c'est juste les signes cliniques? Est-ce que c'est l'admission à l'hôpital? Est-ce que c'est l'admission en réanimation? Et donc tous ces paramètres sont en cours d'évaluation.
Sandrine Sarrazin.
Oui, je crois que c'est effectivement des études qui sont compliquées à faire parce que, idéalement, il faut pouvoir faire ces études dans des endroits où les deux variants circulent en même temps pour pouvoir avoir vraiment une possibilité de comparer les groupes. Donc, voilà, c'est effectivement une des difficultés, c'est d'avoir encore des endroits où le variant alpha est pas complètement submergé par le delta.
Sandrine Sarrazin, on sait maintenant que ce variant delta est majoritaire dans le monde entier. À partir du moment où ce variant s'est installé, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va perdre de la vitesse? Est-ce qu'il peut s'essouffler ou est-ce que c'est juste l'apparition de nouveaux variants qui vont le mettre un petit peu de côté?
Je le crains que ce sera l'apparition de nouveaux variants encore plus contagieux qui vont l'écarter probablement. Ce qui est pas bon pour un virus, c'est d'être mortel pour son hôte, puisque lui, voilà, le virus va se propager, donc il a besoin de temps pour se propager. Voilà, ça va être un équilibre entre la contagiosité et la sévérité. Et celui-là a l'air d'avoir trouvé un bon équilibre entre les deux. Et je crains que le prochain variant sera sûrement plus contagieux.
Oui. Olivier Schwartz, sur la question des variants, parce que là, on parle du variant Delta qui a été identifié à la fin de l'année 2020, qui a été mieux compris à partir d'avril. Là, on commence déjà à parler de l'apparition de nouveaux variants qui sont plus ou moins préoccupants selon l'OMS. On parle du variant C1.2 et du variant Mu. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces deux variants et est-ce qu'ils peuvent venir concurrencer sérieusement le variant Delta ?
Alors, donc, il y a un paramètre aussi important pour l'apparition de nouveaux variants, c'est l'état de vaccination de la population. Et donc, bon, au niveau mondial, on doit être à 20% de la population vaccinée. Donc, on est très loin ça laisse de l'espace pour les virus pour se multiplier. Alors, juste pour répondre sur les variants Mu et C1.2, donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de séquences qui sont faites régulièrement, et donc quand il y a des signes qui commencent à s'accumuler ou un nombre de séquences qui augmente, ça peut signer l'apparition d'un variant. Alors, pour le variant C1.2, il y a très peu de séquences, il y en a quelques dizaines, une centaine dans la base de données. Donc, il faut se méfier parfois des amplifications médiatiques. Là, le variant C1.2 a attiré l'attention parce qu'il avait beaucoup de mutations. Mais donc, on ne sait pas encore s'il va pouvoir prendre le dessus. Et puis, le fait d'avoir beaucoup de mutations, parfois, comme je vous le disais, peut être délétère pour la multiplication virale. Et c'est le cas également du variant Mu, puisque, en fait, il était présent en Colombie. Et donc là, il avait commencé à se multiplier, mais c'était avant le variant Delta. Mmh. Et donc, progressivement, il est représenté jusqu'à 70% des séquences là-bas. Et maintenant, il est en train de diminuer parce que le variant Delta est arrivé et il galope plus vite. Et donc, il prend le dessus. Et on voit même au niveau de l'ensemble des séquences, à un moment donné, il pouvait représenter 0,6% des séquences. Et maintenant, on est à 0,1% des séquences. Mmh. Donc, il est en décroissance. Il est pour l'instant terrassé par Delta.
On peut peut-être rappeler, Sandrine Sarrazin, même si ça n'est pas votre spécialité, mais comment l'OMS surveille tous ces variants et quels moyens elle dispose finalement pour détecter un variant, le classifier, lui donner un degré de gravité, on va dire.
Alors, en effet, je suis pas la spécialiste. je ne sais pas comment l'OMS surveille exactement. En tous les cas, c'est sur la base des séquences. Donc, on a besoin du séquençage des génomes des virus. Et ensuite, c'est de la phylogénie classique, comme on classe les espèces animales. Il y a de la phylogénie aussi pour les virus. Donc, on peut retracer le cheminement ancestral, en fait, et donc l'apparition comme ça de nouvelles branches et de nouveaux variants. Donc, je pense que c'est effectivement sur la base du séquençage que l'on peut, dans un premier temps, identifier un nouveau variant, de sa fréquence de présence dans les bases de données. Et ensuite, je pense qu'on a la chance aussi maintenant d'avoir la structure tridimensionnelle de la protéine de spicule, notamment. Maintenant, les modélisateurs, les chercheurs spécialistes dans ces domaines-là sont capables plus ou moins de prédire quel peut être l'impact de telle ou telle mutation sur tel ou tel acide aminé, sur la conformation, la structure de la protéine de spicule, puisque c'est celle qui est vraiment la clé d'entrée dans la cellule. Et donc, ils peuvent faire des prédictions sur les potentielles dangerosités de ces nouveaux variants apparaissant avec des nouvelles séquences. Bon, sachant que des nouveaux variants, enfin, l'OMS en suit une petite trentaine. Il y en a donc quatre qui sont vraiment de concern, enfin, qui sont très concernants et d'autres qui sont d'intérêt, cinq ou six. Mais des variants, j'ai regardé récemment, il y a un site internet qui nous permet de voir la phylogénie des virus, mais il y a des centaines de branches, en fait, et donc, il y a bien plus de variants que ceux dont on parle dans les médias.
Olivier Schwartz, sur cet arbre phylogénétique buissonnant du SARS-CoV-2 et sur les degrés, la classification que fait l'OMS, par exemple, elle parle de variants à suivre, de variants préoccupants. Qu'est-ce qui les distingue, ces variants à suivre, ces variants préoccupants ?
Alors, il y a beaucoup de mutants dans ces bases de données. Et avant d'avoir le nom de variant, il faut certains critères. Sandrine en a rappelé certains. Et donc, un variant devient préoccupant. Et d'abord, un variant d'intérêt quand il commence à se propager et à avoir sa fréquence augmentée. Et pour devenir préoccupant, variant of concern, il faut avoir des critères tels que résistance aux anticorps, pathogénicité éventuellement accrue et propagation accrue par rapport à un autre virus. Donc quand le variant va prendre le dessus, là il devient un variant concernant ou variant d'inquiétude.
Est-ce qu'un variant qui n'a pas présenté de risque à un moment donné peut en présenter plus tard, Sandrine Sarrazin, là-dessus ? Est-ce que c'est un variant qui est inoffensif d'emblée ? Est-ce qu'il le reste pour toujours ou bien est-ce que il peut potentiellement s'aggraver plus tard ?
S'il s'aggrave, c'est qu'il a acquis de nouvelles mutations. Mm-hmm. Donc, il va devenir un nouveau mutant ou un nouveau variant ensuite. Et donc, probablement qu'à un moment, on lui donnera un nouveau nom et il sera dans une nouvelle branche. Chaque variant dont on a là maintenant donné un nom, ceux-là sont stabilisés, on va dire. Ceux-là sont stables, on sait qu'ils se propagent et qu'ils sont majoritaires dans certains pays. Donc, quand ils vont muter... ils auront éventuellement acquis de nouvelles mutations qui vont leur donner un nouveau nom et une nouvelle propriété.
Et vous l'évoquiez tout à l'heure, on a aussi des capacités de projection et des modèles statistiques qui permettent d'anticiper les futures mutations. Alors quelles sont, ce sera très compliqué d'expliquer comment fonctionnent ces modèles, j'imagine que c'est très complexe, mais quelles capacités de projection et à quel horizon de temps ils nous permettent de nous dire, tiens, à cette période-là, il est possible que tel variants apparaissent.
Alors, anticiper les mutations, prédire les mutations, ça c'est très difficile, puisque les mutations, elles apparaissent au hasard. Alors, il peut y avoir des régions dans le génome du virus qui peuvent être plus sensibles à des erreurs de photocopie. Ce qu'on peut prédire plutôt, c'est quelles peuvent être les conséquences de certaines mutations sur la structure, sur la forme de la protéine de spicule et éventuellement prédire si c'est inquiétant pour la reconnaissance par les anticorps ou pour l'entrée du virus dans la cellule. Mais prédire les mutations, c'est très compliqué. On sait par contre que les mutations qui vont apparaître dans certaines régions du génome du virus, donc notamment la protéine de spicule.
La fameuse clé d'entrée.
Celle-ci. Et dans la protéine de spicule, il y a deux régions, il y a S1, S2 et donc à l'intérieur d'une des régions, il y a le domaine de reconnaissance du récepteur. Ces mutations qui vont apparaître ici, elles vont être vraiment très surveillées pour voir quelles vont être les conséquences fonctionnelles sur le virus.
Olivier Schwartz, sur cette capacité non seulement prédictive, mais aussi de surveillance au jour le jour des mutations du virus.
Alors, on ne peut pas vraiment les prédire, ces mutations, mais en tout cas, on peut les déterminer expérimentalement. Je pense à des travaux d'une équipe américaine et d'autres qui, dès le début, ont cultivé les premières souches virales avec des anticorps, en fait, avec du sang de personnes convalescentes. Et c'est de la sélection en culture cellulaire, donc en éprouvette. Et donc là, ils ont pu déjà sélectionner des virus en culture. En fait, ils travaillaient uniquement sur la spicule, mais pas sur le virus entier. Et donc, ils savaient déjà les régions qui étaient potentiellement sensibles aux anticorps et donc comment les mutants pouvaient devenir de ce fait résistants. Et en fait, ce sont exactement les mêmes mutations qui ensuite sont apparues sur le terrain. Et donc, ça nous indique que, en fait, la plupart des mutations qu'on voit sont de l'échappement aux anticorps. Et donc, ça nous indique également que, finalement, la réponse du système immunitaire, il y a différentes branches, mais c'est quand même la réponse dite humorale, donc les anticorps qui gênent le virus et qui, d'ailleurs, expliquent pourquoi les vaccins fonctionnent.
Eh bien, restez avec nous parce que on va justement aborder cette réponse immunitaire et la question épineuse de la stratégie vaccinale AD à adopter contre ces variants et notamment contre le variant Delta.
Plus haut tu habites, mon ami. Est-ce là où tu vivais tout l'été? Reviendras-tu chez toi? Resteras-tu dans l'eau? Je sais où tu n'es pas, en tout cas. Et je ne vois plus Jaja à la fenêtre. Est-elle encore de ton monde, celle-là? Je ne vois plus les draps me dire que tu es là, dire bonjour les matins sans toi.
Bonjour les matins par Alexandre Delano dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure du variant Delta, du SARS-CoV-2 et des stratégies à adopter pour contrer sa progression. Et nous en parlons avec Sandrine Sarrazin, chargée de recherche INSERM au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Nous sommes également en compagnie d'Olivier Schwartz, directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Alors on en arrive à l'une des questions les plus importantes concernant ce variant Delta et les autres variants, c'est celui de la stratégie notamment vaccinale à adopter pour enrayer sa propagation. Pour comprendre la sensibilité du variant Delta face aux anticorps monoclonaux et à ceux des personnes déjà infectées ou vaccinées, votre équipe à l'Institut Pasteur, Olivier Schwartz, a réalisé une étude publiée dans Nature en juillet dernier. Et c'est là que vous êtes allé pour le reportage du jour. Céline Ozen, bonjour.
Bonjour Antoine. Oui, je suis allée dans l'unité virus et immunité et j'y ai retrouvé Delphine Planas, qui est postdoc et qui a participé à cette étude-là. Une étude réalisée en collaboration avec l'hôpital européen Georges Pompidou, le CHR d'Orléans et le CHU de Strasbourg. L'objectif de ce travail, co-encadré par Olivier Schwartz, était d'évaluer le potentiel des anticorps, qu'ils soient thérapeutiques ou issus de personnes déjà infectées ou bien encore vaccinées, à neutraliser ce nouveau variant et de comparer cette capacité par rapport aux variants alpha et bêta. Pour analyser ça, ils ont mis au point une nouvelle technique, un test de neutralisation semi-automatisé très rapide et qui a pu montrer que le variant Delta est bien moins sensible aux anticorps.
Cette partie de l'étage, c'est l'équipe d'Olivier Schwartz et une partie donc, du laboratoire s'intéresse à étudier la sensibilité de SARS-CoV-2 et des variants aux anticorps, donc, que ce soit les anticorps thérapeutiques ou les anticorps générés chez les individus après une infection naturelle ou après vaccination. Après, on travaille en collaboration avec les hôpitaux qui nous permettent d'avoir un accès aux échantillons de patients, aux sérums, et également aux virus, puisque les virus sont isolés à partir de prélèvements nasopharyngés de personnes infectées qui se rendent à l'hôpital. Et donc là, le variant Delta notamment, c'est un patient qui revenait d'un voyage en Inde, qui s'est présenté à l'hôpital Georges Pompidou. Et donc à l'hôpital, le service de virologie, Hélène Perret et David Veillère ont séquencé le virus à partir du prélèvement et c'était le variant Delta. Donc ensuite, nous, on a récupéré ce prélèvement et on a pu faire cette étude en collaboration avec.
Alors pour bien comprendre, vous avez évalué cette sensibilité d'une part avec les sérums de patients qui ont été infectés il y a environ 12 mois, on va dire, et ceux donc, qui ont reçu des vaccins.
Alors dans l'étude qu'on a faite dans Nature, on a testé les anticorps monoclonaux directement sur la souche virale.
D'accord.
Donc c'est que du in vitro.
Alors justement dans l'étude, en tout cas dans son résumé, on peut lire que l'efficacité des anticorps naturels neutralisants sont 6 fois inférieures, enfin face aux variants Delta qu'aux variants Alpha. Comment on arrive à quantifier ça?
Donc en fait ces tests de neutralisation sont très simples. Ils consistent à mélanger le virus donc qu'on a isolé précédemment d'un patient infecté, donc potentiellement un variant, aux anticorps ou au sérum de personnes vaccinées ou de personnes ayant eu un Covid. Et donc ce mélange, ensuite, on l'expose à des cellules qui sont permissives à SARS-CoV-2. Donc la particularité de notre test, hein, c'est que les cellules qu'on utilise, ce sont des cellules des lignées cellulaires ostéosarcomes, et elles produisent en fait une protéine fluorescente, qui est la GFP, lorsqu'elles sont infectées.
Une sorte de biomarqueur.
Voilà. Et cette protéine fluorescente, on est capable de la visualiser et de la quantifier par microscopie. Et donc plus un virus va être infectieux, plus il va y avoir de signal fluorescent. Et à l'opposé, plus un anticorps est capable de neutraliser, d'empêcher l'infection du virus, moins il va y avoir de signal. Microscope qu'on utilise.
Il est assez énorme.
Il est énorme et c'est un microscope un peu particulier puisque il lit les plaques en fait.
C'est des plaques avec des puits, c'est ça ?
C'est ça. Et donc dans chaque puits, il y a des cellules qu'on a mis, donc on a rajouté sur ces cellules du virus pré-incubé ou non avec du sérum ou des anticorps. Et donc ensuite, on va visualiser grâce au microscope la quantité d'infection qu'on visualise en fait par la quantité de cette protéine fluorescente.
C'est quasiment instantané du coup une fois qu'on a...
C'est 7 minutes pour lire une plaque. Et donc dans cette plaque, on a 8 sérums. Donc là, il y a dans la première ligne, c'est la quantité de sérum la plus importante et on descend. Et donc là, si le sérum est efficace, s'il y a des anticorps efficaces, il n'y aura pas d'infection dans les premières lignes. Et petit à petit, moins on met d'anticorps, plus il va y avoir d'infection. Et on est capable ainsi de déterminer un titre de neutralisation.
Une concentration
efficace pour empêcher 50% de l'infection.
Et c'est visible direct. Donc là, on peut voir sur l'écran le schéma de la plaque avec les puits déjà.
Ouais, je vais runner, comme ça on va voir, je fais que
là,
deux
lignes. Là, vous lancez l'acquisition.
Là, je lance l'acquisition. Donc là, il commence à lire le premier puits. Donc là, par exemple, ce qu'on voit en bleu, ce sont les noyaux des cellules. Et ensuite, là, il n'y a pas de vert, parce qu'en fait, c'est le sérum à sa plus forte concentration. Donc le virus a été neutralisé. On descend.
Et ah oui, progressivement, on voit que le vert...
Progressivement, vous voyez, il y a des cellules qui sont vertes. Et donc,
le vert se propage.
Le vert augmente et ça veut dire que à ce niveau-là, le virus a infecté les cellules et donc à cette concentration-là, les anticorps ne sont pas efficaces à empêcher l'infection. Là, le microscope, vous voyez, délimite la partie fluorescente. Il entoure toutes les cellules infectées en fait et il va nous donner un nombre de cellules infectées. Donc la finalité du travail, c'est qu'effectivement, il y a des variants qui émergent et qui ont une sensibilité plus faible aux anticorps, que ce soit les anticorps générés après infection ou les anticorps produits après vaccination. Et donc la continuité, c'est si effectivement d'autres variants émergent, ben, il faut étudier leur sensibilité, notamment à la vaccination. Et puis, regardez aussi, je pense que c'est très important, la durée de vie, en fait, de ces anticorps. Donc, c'est important de suivre, en fait, l'évolution pour identifier le moment où la troisième dose va peut-être être importante, parce que certains variants nécessitent une quantité d'anticorps plus importante pour être neutralisés.
Voilà pour ce reportage à l'Institut Pasteur. Une réaction, Sandrine Sarrazin, à ce reportage de Céline Lozen sur ses capacités qu'a le variant Delta à contourner partiellement la réponse des anticorps.
Oui, oui. Bah, partiellement, je crois qu'il faut aussi rappeler que les études en virale ont montré que la vaccination permet de protéger très efficacement toujours contre les hospitalisations. Hein, tous les vaccins dont on dispose en France, en Europe, ont des taux de protection contre l'hospitalisation induits par le variant Delta qui sont de l'ordre de 96-95%. Voilà, c'est un des éléments clés. En effet, la neutralisation va éventuellement corréler, le potentiel de neutralisation va corréler avec le développement aussi des formes asymptomatiques. Et peut limiter, la manière dont on peut limiter la propagation. Hein. Donc, l'équipe d'Olivier Schwartz a un modèle qui permet de détecter ça directement in vitro. Il y a une perte de neutralisation. Des études en virale ont montré qu'il y avait des pertes de neutralisation aussi pour le vaccin Pfizer, par exemple, de l'ordre de 6 fois, de 2 à 3 fois pour les autres vaccins. Mais ça reste néanmoins avec des vaccins très efficaces au départ.
On est largement au-dessus des 50% nécessaires.
Très largement.
Bon, on peut être rassuré quand même. C'est pas mal d'être rassuré dans ce genre de période.
On reste au-delà de 80% d'efficacité sur les formes symptomatiques pour tous ces vaccins. AstraZeneca un peu moins, mais c'est au-dessus du 50% nécessaire.
Olivier Schwartz, donc on comprend bien, les vaccins restent très efficaces contre ce variant Delta. Toutefois, on peut quand même contracter le virus. Alors comment est-ce qu'on explique ça?
Alors Delphine a très bien expliqué donc les expériences que nous faisons et nos systèmes expérimentaux, et elle a parlé d'un point important, c'est également la durée de la réponse vaccinale, puisque là, ce qu'on est en train de faire, on suit finalement, puisque maintenant on a des reculs de 9 mois pour certaines vaccinations, et donc on voit comment la quantité d'anticorps diminue, et en fait elle diminue relativement rapidement. Alors c'était difficile de savoir à quelle vitesse après vaccination ARN ce taux d'anticorps allait rester haut ou pas, et donc on s'aperçoit qu'au bout de 8 mois, il y a quand même une très forte diminution, et tout ça combiné avec le fait que le variant Delta en plus arrive à échapper, fait qu'on a des sérums au bout de 8 mois de patients vaccinés qui ne semblent plus capables de neutraliser. Alors ça ne veut pas dire que les personnes ne vont pas être protégées contre une forme grave après infection. On sait par exemple très bien que effectivement là il y a des personnes hospitalisées en France, il y en a au moins 80% des personnes hospitalisées qui ne sont pas vaccinées. Mmh. Donc là, le virus se propage chez les personnes non vaccinées. Mmh. Donc le vaccin est efficace contre les formes graves. En Israël, il y a des études qui ont montré également qu'il y a eu une recrudescence de nombre de cas. On est à 10 000, 11 000 cas en France par jour. On est le même nombre de cas en Israël. Donc nous, on est en train de diminuer, et eux aussi également. On parlera après de la dose de rappel éventuellement. Mmh. Donc ils ont eu des personnes qui ont été hospitalisées en réanimation, et la majeure partie avait quand même reçu 2 doses. Et en fait, il y a des études qui ont montré que les personnes les plus sensibles, en fait, c'est des personnes, bon, peut-être plus âgées, mais c'était celles qui avaient été vaccinées le plus tôt, en janvier-février. Donc, et que ceux qui ont été vaccinés plus récemment semblaient probablement plus protégés. Donc la quantité d'anticorps ou l'évolution de la réponse immunitaire au cours du temps est un paramètre important.
Sandrine Sarrazin.
Oui, le taux d'anticorps dans le sang est vraiment un paramètre important. C'est celui auquel on a accès directement pour mesurer le degré de protection qu'on a. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que même s'il n'y a plus d'anticorps dans le sang, on a encore en réserve les cellules qui peuvent produire les anticorps. Donc, effectivement, en mesurant le taux d'anticorps qu'on a dans le sang et en tentant de maintenir ce taux d'anticorps dans le sang très élevé avec la vaccination, et là on reparlera de la troisième dose, donc pour vraiment maintenir ce taux très élevé dans le sang, mais c'est pas parce que le taux diminue qu'on n'est pas bien protégé quand même, parce qu'on a quand même en réserve à la cave les lymphocytes mémoire. Donc peut-être que c'est le moment de rappeler un petit peu
le mécanisme de tout ça, et qui sont ces lymphocytes mémoire qui sont à la cave.
Et exactement, et qu'on vient vraiment stimuler avec les doses de rappel. Voilà. Donc la manière dont notre système immunitaire fonctionne, il fonctionne vraiment en deux vagues. Il y a une première vague qu'on appelle l'immunité innée. Donc quand on rencontre le pathogène ou la vaccination, c'est d'abord des sous-types de globules blancs très particuliers qui rentrent en œuvre, les macrophages, les cellules dendritiques, qui vont prendre en charge le pathogène, le découper en morceaux. Cette immunité-là, elle est très efficace, hein, 98% d'efficacité pour le système immunitaire inné. En général, on arrive à se débarrasser d'une infection déjà avec ce système immunitaire-là. Et le travail ensuite des macrophages, des cellules dendritiques, c'est d'aller présenter l'antigène, donc présenter des petits bouts du pathogène qu'on vient de rencontrer aux fameux lymphocytes B et lymphocytes T dans les ganglions lymphatiques. Donc ça ne se passe pas au même endroit, ça ne se passe pas sur le lieu d'infection. Il faut que les cellules se déplacent et aillent montrer aux lymphocytes B et T le petit bout voilà, de pathogène qui a été rencontré. Et c'est là, c'est les lymphocytes B qui font des anticorps, eux. Et donc, ça prend un peu de temps pour faire ça. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut être malade. Ça prend un peu de temps pour faire ça. Si notre système immunitaire inné n'a pas réussi à se débarrasser du pathogène, bon bien, il va y avoir des anticorps dès la première infection qui vont être produits au bout de 23 semaines à peu près, et qui vont vraiment aider à se débarrasser de l'infection. Et une fois que l'infection, on s'en est débarrassé, eh bien, effectivement, on va garder en stock ces lymphocytes qui ont été sélectionnés pour pouvoir reconnaître le pathogène. C'est les lymphocytes mémoire. Ils vont être stockés à un endroit. Ils sont d'une durée de vie assez longue, mais pas pour toute la vie non plus. Et donc, il va falloir régulièrement recommencer à les faire proliférer, les réveiller, exactement. Et donc, c'est vrai, et effectivement, c'est tout à fait le rôle de la dose de rappel, donc ou bien d'une deuxième dose de vaccination après la première, ou bien d'une première dose de vaccination après avoir eu la Covid, c'est d'aller stimuler la prolifération de ces lymphocytes mémoire. Et dans cette phase de stimulation de la prolifération, pour augmenter le stock et pour qu'on en ait pour plus longtemps ou pour renouveler le stock, il y a aussi une étape très importante qui est l'hypermutation somatique et qui permet d'effectuer un affûtage de nos anticorps. Donc là, les armes, imaginons que c'est une arbalète ou un couteau, et en fait, à la restimulation, à la deuxième stimulation, on va vraiment venir affûter les anticorps et sélectionner les clones de lymphocytes mémoire qui vont avoir les armes les plus affûtées pour être vraiment nickel à la troisième infection, en fait.
C'est-à-dire que la deuxième dose, c'est le rémouleur, et la troisième dose, c'est le réveil matin, quoi. C'est
exactement,
un peu...
voilà. Exactement. Donc, le taux d'anticorps dans le sang, c'est bien quand on en a un bon taux d'anticorps, c'est la ceinture, mais les bretelles, en plus, c'est les lymphocytes mémoire. Donc, même si on n'a plus de taux d'anticorps dans le sang, on peut quand même être protégé, on peut réactiver ces lymphocytes mémoire avec une nouvelle dose de vaccin. Voilà, et donc se protéger. On le fait déjà pour un bon nombre de vaccins. On a des rappels tous les 10 ans, les 15 ans, parce qu'au bout, à certains, on n'en a pas besoin. Et puis pour d'autres, on a besoin de faire des rappels pour réveiller un petit peu la prolifération des lymphocytes B mémoire.
Olivier Schwartz, justement, cette troisième dose de vaccin, elle est disponible depuis le 1er septembre pour certaines personnes en particulier. Quels sont les profils des personnes prioritaires pour une troisième dose vaccinale ?
Alors, je voulais rajouter quelque chose à ce que Sandrine a justement présenté. Effectivement, donc c'est l'immunité lymphocytaire B. Les anticorps qu'on a dans le sang sont produits de façon continue par ces globules blancs. Il y a un autre paramètre qui est intéressant, c'est également ce qui se passe au niveau des muqueuses nasales et qui peuvent expliquer d'ailleurs, pourquoi certains vaccins ne protègent pas contre l'acquisition, et donc on peut quand même attraper le virus, mais contre les formes graves, parce que quand on mesure le taux d'anticorps, on regarde ce qui se passe dans le sang. Et on a des études en cours au laboratoire, il y a d'autres laboratoires également dans le monde qui le font, qui mesurent. Donc là, il faut des tests vraiment plus précis parce que c'est pas facile de mesurer la quantité d'anticorps dans les prélèvements, dans les écouvillonnages. Et en fait, il semble y avoir des variations en fonction de l'exposition, de la durée de vaccination et du type de vaccination. Et certains vaccins vont peut générer de réponses locales. Et par exemple, on voit qu'une infection, en revanche, puisque le virus est multiplié au niveau du nez, là, il peut y avoir pendant plus longtemps des anticorps. Et donc, on peut être protégé plus facilement, peut-être, après avoir eu après une infection naturelle, contre une nouvelle infection que certains vaccins. Et il y a beaucoup d'études sur ce sujet. Voilà.
Et sur la troisième dose, du coup, sur les personnes prioritaires pour recevoir cette troisième dose qui est disponible depuis le 1er septembre, mais pour certains profils particuliers.
Alors donc là, la troisième dose, ou plus exactement, c'est une dose de rappel parce qu'on considère que les deux premières doses, c'est la première vaccination. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de recul. Elle va être préconisée pour les personnes, comme vous l'avez vu. Donc ce sont des décisions de santé publique âgées de plus de 65 ans et vaccinées depuis plusieurs mois. Ça a déjà commencé dans certains pays, en particulier en Israël. Il y a déjà des études sur ce sujet qui ont été publiés, et on voit que la troisième dose ou la dose de rappel fonctionne vraiment très bien, là encore, puisque quand on mesure la quantité d'anticorps dans le sang, qui est quand même ce qu'on appelle un correlat de protection, eh bien on voit un boost, une multiplication par 10 à 100 de la quantité d'anticorps. C'est ce qu'on voit, ça correspond d'ailleurs à ce qu'on voit chez les personnes qui ont eu le Covid, et qui, même 12 mois après, sont vaccinés pour la première fois, eh bien c'est une dose de rappel également pour eux. Et là, ça monte énormément. Donc, les indications pour l'instant sont celles préconisées par les autorités de santé. Donc, c'est au-dessus de 65 ans ou chez les personnes qui n'ont pas développé d'anticorps parce qu'elles peuvent être immunodéprimées ou parce qu'elles sont atteintes de certaines pathologies ou d'autres maladies ou de certaines immunodéficiences.
Sandrine Sarrazin, sur cette question.
Oui, je crois qu'effectivement, la stratégie qui est de recommencer, en fait, comme au début, la troisième dose par les plus âgés et ceux qui ont peut-être des immunosuppressions, des choses comme ça, est tout à fait logique, puisqu'on sait que le système immunitaire vieillissant est moins efficace. Donc, on peut s'attendre à ce que les personnes les plus âgées ont le moins bien répondu à la vaccination, ou du moins leur taux d'anticorps dans le sang peut baisser plus vite. Et puis c'est en plus eux qui effectivement ont été vaccinés en premier, oui. Donc il y a plus longtemps. Donc c'est tout à fait logique de recommencer dans le même ordre, donc avec les personnes les plus âgées, les personnes immunodéprimées, enfin ceux qui étaient prioritaires pour la première dose déjà.
Une question que tout le monde se pose, c'est à partir de quand ce système immunitaire sera un petit peu moins efficace face au SARS-CoV-2 et à quelle fréquence on devra avoir des vaccins de rappel. Ça, c'est une question qu'on peut se poser de partout. Est-ce qu'on a une idée là-dessus, Sandrine Sarrazin?
Alors, il n'y a pas de formule mathématique pour le calculer. Mm-hmm. On peut que l'observer dans la vie réelle et c'est très, très différent d'un vaccin à l'autre, d'un pathogène à l'autre. Donc, il faudra observer. Et je pense que là, on a la chance, effectivement, d'avoir ces suivis dans des pays où on a des suivis sur des millions de personnes, où on peut suivre le taux d'anticorps. Et il faudra faire une quatrième dose, puis une cinquième, enfin des rappels, aussi souvent qu'il faudra pour maintenir un bon niveau d'anticorps dans le sang, peut-être, pour être certain qu'on est bien protégé.
Olivier Schwartz, est-ce que c'est envisageable de faire un test pour savoir si notre taux d'anticorps est encore suffisamment élevé pour être protégé du virus? Est-ce que ça, c'est quelque chose de généralisable en population complète ou pas?
Alors c'est fait chez les personnes à risque, donc c'est sur une goutte de sang et on peut mesurer le taux d'anticorps dans les tests, certains qu'on utilise au laboratoire dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a d'autres tests plus qui mesurent juste le niveau d'anticorps global. Et donc ça fonctionne très bien. Il y a des études qui montrent là qu'il y a une corrélation entre la quantité d'anticorps et la protection contre les formes sévères. Donc ça peut être envisagé de suivre en particulier chez des personnes à risque, de savoir si la vaccination a bien fonctionné, si elles ont été infectées. Ça me semble être un outil utile pour évaluer l'état immunitaire d'une personne.
Il y a quelque chose qu'il faut préciser aussi, Sandrine Sarrazin, c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément un taux d'anticorps très élevé qu'on n'est pas immunisé. Ça dépend aussi des personnes.
Oui, ça dépend aussi des personnes, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de la génétique de chacun. Même si le système immunitaire fonctionne globalement de la même manière chez tout le monde, eh bien il y a des petites variations quand même, comme on peut avoir des cheveux de couleurs un peu différentes. Et donc la réponse à la vaccination ou à ce type de vaccin ou au pathogène peut être différente, même dans la même tranche d'âge, pour les mêmes sexes peut être différent. Donc on pourra pas généraliser tout, et effectivement de pouvoir doser le taux d'anticorps qu'on a dans le sang peut être une bonne stratégie pour savoir si on est toujours bien protégé. Voilà.
Ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est pas parce qu'on aura une troisième dose qu'on aura plus d'effets secondaires négatifs ou désagréables.
Non, ça c'est, il y a aucune raison de penser qu'on aura d'autres effets secondaires différents de ceux qu'on connaît déjà, qui sont la fièvre, mal au bras, un petit état grippal. Il n'y a pas d'autres effets secondaires à attendre d'une troisième dose. Il n'y a pas de risque à multiplier les rappels en fait.
Alors là, on a la chance d'avoir des vaccins qui sont déjà très efficaces sur la souche d'origine, qui sont efficaces aussi sur ce variant Delta. Peut-être qu'un jour, un variant sera plus résistant au vaccin. Comment est-ce que, Olivier Schwartz, on peut adapter, dans des délais brefs, un vaccin à un variant qui sera plus résistant au vaccin?
Alors oui, juste un point sur la réactogénicité de la troisième dose. Il y a des études qui ont effectivement montré que il n'y a pas plus de risques de développer des réactions fortes après vaccination. Donc là, c'est tout à fait tout à fait bien
de le souligner.
De le souligner. Alors, est-ce que les vaccins vont évoluer pour tenir compte de l'évolution et l'apparition de nouveaux variants? Donc, les études sont en cours, si j'ai bien compris. Pfizer et Moderna, d'ailleurs, ont quand même une plateforme vaccinale assez flexible et donc ils ont lancé des essais cliniques, me semble-t-il, avec des formes de spicules modifiées qui sont déjà plus ou moins donc résistantes à certains anticorps. Et donc ça peut être une évolution intéressante. Cependant, pour l'instant, ils préconisent d'utiliser la même préparation vaccinale que celle disponible parce qu'elle est déjà caractérisée. C'est peut-être plus simple d'utiliser ce qui est disponible. Ils ont peut-être des stocks à écouler.
Sandrine Sarrazin.
Ouais, ils sont capables de. Enfin, pour les vaccins ARN, leur plateforme leur permet en fait de modifier la composition de l'ARN, enfin de l'ARN qui est dans le vaccin en 6 semaines. Donc c'est très rapide. Donc ça veut dire qu'ils peuvent s'adapter très très rapidement. Donc effectivement, ils ont des essais cliniques en cours pour démontrer que leur mode de production, quel que soit l'ARN qu'il y a dedans, permet de garantir toujours la sécurité. Et donc, ils devraient pouvoir ensuite modifier cet ARN à la demande, si besoin était. Mais pour le moment, il n'y a pas de nécessité de modifier l'ARN dans ces vaccins ARN.
Il y a une question clé qui est aussi plus d'ordre géopolitique, on va dire, c'est la question de l'accès aux vaccins. On parle beaucoup, depuis le début de l'épidémie, d'immunité collective comme d'un idéal. Le problème, c'est que on n'est pas tous égaux devant l'accès à ces vaccins, que ce soit ne serait-ce qu'en France, mais aussi dans le monde. Comment ça, est-ce que vous le percevez, vous, en tant que scientifique, Olivier Schwartz, Sandrine Sarrazin?
Oui, je crois qu'effectivement, comme Olivier l'a rappelé tout à l'heure, on a encore 80% de la planète qui n'est pas vaccinée. Donc, c'est effectivement là que les variants vont pouvoir émerger. Il faut à tout prix pouvoir distribuer des vaccins à toute la planète et avoir donc, du coup, plusieurs formes de vaccins. C'est pas les vaccins ARN qu'on va pouvoir diffuser largement puisqu'ils se conservent à des températures basses. Donc, on va avoir besoin de vaccins à protéines recombinantes, de vaccins à base de virus atténués. Il y a une autre classe de vaccins dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est les vaccins à ADN, donc plutôt qu'à ARN, mais qui ont le même principe, c'est-à-dire d'amener un petit morceau du génome du virus dans nos propres cellules qui vont fabriquer la protéine de spicule. Et là, l'avantage des vaccins à ADN, c'est qu'ils sont vraiment très très stables et qu'on va pouvoir les diffuser, qu'on peut les diffuser largement. Voilà, il y a toujours plus d'une centaine de vaccins qui sont en cours de développement, et donc on peut espérer que dans les mois qui viennent, on aura un portefeuille de vaccins qui sera suffisamment grand pour que tous les pays puissent s'équiper en fonction de leurs caractéristiques.
Ouais. Olivier Schwartz.
Oui, et bien sûr, ce n'est pas que une question de diffusion des vaccins, mais de logistique, de structure de vaccination. En Afrique, par exemple, il y a 2% seulement de la population qui est vaccinée, moins de 5%. Et donc, il faut établir beaucoup d'infrastructures, de dispensaires. Et donc, ça, c'est un objectif majeur pour les années à venir, pour tous les organismes de santé dans ces différents pays et l'OMS aussi.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de l'évolution de ce virus, de ses mutations et des stratégies notamment vaccinales pour lutter contre sa propagation. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Nicolas Martin, Céline Lozen, Eve Etienne, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Loïc Dutoit, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.